La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Nous sommes ce matin tout près de la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie.
Et nous nous intéressons là à la première centrale nucléaire biélorusse. Elle a été inaugurée en grande pompe samedi dernier par l'autocrate Alexandre Loukachenko. Deux réacteurs développés à crédit par l'agence atomique russe Rosatom. Une centrale qui est censée réduire la dépendance des Biélorusses au gaz vendu par la Russie. Sauf qu'il crée une nouvelle dépendance puisque, selon la chercheuse polonaise Anna Maria Diner, tous les combustibles nucléaires viennent de Russie et vont y repartir une fois à l'état de déchet, et que l'essentiel de la production électrique de cette centrale doit être exporté, eh bien, vers la Russie. Le souci, surtout, nous dit le site d'info biélorusse tout.by, c'est que la production d'électricité a dû être interrompue en urgence dimanche, au lendemain donc de l'inauguration de la centrale, parce que plusieurs transformateurs électriques ont tout bonnement explosé. Pas de risque de fuite radioactive, nous dit-on de sources officielles biélorusses, mais tout de même un arrêt complet donc de cette centrale d'Astravietz. Un arrêt qui ne fait que confirmer toutes les inquiétudes nourries autour de cette centrale côté lituanien. Car, vous l'avez dit Guillaume, et comme le confirme la télé publique LRT, la centrale nucléaire biélorusse d'Astravietz a été bâtie à 20 km à vol d'oiseau de la frontière lituanienne, à 50 km de la capitale, Vilnius, et qui plus est, au bord de la rivière Neris, dont elle utilise les eaux pour refroidir ses réacteurs, alors que ces mêmes eaux alimentent plus bas Vilnius en eau potable.
Cela fait des années que la Lituanie alerte l'Union européenne sur le manque de transparence des Biélorusses. À propos de cette centrale, Camille.
Oui, ça fait des années aussi que Bruxelles ne fait pas grand-chose, à en croire à nouveau LRT, pour exiger de Minsk de vraies garanties de sûreté nucléaire. Au lieu de ça, la Biélorussie, après les explosions de dimanche, n'a même pas jugé bon, par exemple, de prévenir Vilnius. Pour l'heure, il n'y a bien que la Pologne et donc la Lituanie qui continuent d'alerter sur les risques au niveau européen et qui en remettent une couche aujourd'hui auprès de Bruxelles avec l'argument, eh bien, que cette avarie, quelques jours seulement après la mise en service d'Astravietz, donne complètement raison au pire de leurs craintes. À défaut d'avoir réussi à empêcher donc la construction de la centrale, Varsovie et Vilnius espèrent que Bruxelles va enfin agir et faire pression sur Minsk. Mais de son côté, vous vous en doutez, Alexandre Loukachenko ne veut rien entendre. Il limite au maximum les communications sur cette centrale dont la construction a été éminemment politique, censée projeter la Biélorussie dans une modernité radieuse en étroit partenariat, on l'a dit, avec le voisin russe, dans un contexte troublé. En plus, on le sait, par la réélection très contesté du président au mois d'août, pas question de faire des vagues. Et pourtant, estime le journal économique lituanien Verslos Ignos, les réparations à la centrale nucléaire d'Astravietz vont prendre du temps, beaucoup de temps. Le fleuron industriel biélorusse n'est pas prêt de produire à nouveau de l'électricité. Sale temps, décidément, pour Alexandre Loukachenko et pour les Biélorusses.
En Australie, ce sont les paroles de l'hymne national qui font débat, Camille.
Oui, un mot au cœur de l'actualité là-bas, et c'est dans le premier couplet de l'hymne. Tendez l'oreille, hein, je vous explique dans une seconde pourquoi il y a donc un mot qui pose problème. Voilà, Australiens, réjouissons-nous tous d'être si jeunes et libres. Et c'est le mot « jeune » qui est aujourd'hui remis en cause, 36 ans après la création de cet hymne, parce que, comme nous l'explique dans son éditorial d'hier, le Sydney Morning Herald, eh bien, considérer que la nation australienne est jeune, c'est ignorer les millénaires, les dizaines de millénaires même d'occupation de l'île par les peuples aborigènes, c'est exclure tout un pan de l'identité australienne en adoptant le regard des seuls colons britanniques qui ont peuplé l'Australie à partir de la fin du XVIIIe siècle. 50 000 ans d'histoire donc effacés par un seul mot en apparence anodin et positif, un petit mot jeune qui, à condition que l'on se donne la peine de le changer, eh bien pourrait changer beaucoup de choses pour les aborigènes d'Australie, comme le plaide également le quotidien The Australian. Alors notez bien que l'idée n'est pas nouvelle, elle avait été évoquée au début de l'année par la grande championne olympique et militante de la cause aborigène Cathy Freeman, mais jamais elle n'avait trouvé une telle résonance dans les médias grand public que ces deux derniers jours. Et l'une des raisons révélées par le Catherine Times, c'est qu'une femme politique et juriste renommée en Australie, la première ministre des Nouvelles-Galles du Sud, qui est la région la plus peuplée du pays, a publiquement dit qu'elle est favorable au remplacement de Young and Free par One and Free, une nation unie donc plutôt qu'une nation jeune. Il faut ajouter bien sûr que tout le monde en Australie et tous les médias en particulier n'est pas d'accord avec ce changement de parole, mais comme l'écrit The Australian en conclusion de son éditorial, eh bien la question est suffisamment importante pour alimenter la discussion des repas de famille et des barbecues estivaux ce week-end en Australie, en attendant bien sûr un vrai débat parlementaire sur le sujet.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale. Il est 7h41 sur France Culture.